là. Avec deux enregistreurs, c'est plus sûr. Je signale d'ailleurs à ceux que ça intéresserait que cette année, contrairement à l'année passée, je me suis engagé, et pour l'instant je tiens mes promesses, avec la seule séance que nous ayons eue, introductive la dernière fois, à mettre sur le site internet de la paroisse, non pas sur la chaîne YouTube, parce qu'il n'y a pas de vidéo prise de ces topos, mais je mets sur le site de la paroisse, dans un onglet, enfin vous verrez, vous trouvez dans le, je crois, vie chrétienne, vous avez toutes les formations qui sont proposées, vous avez un onglet catéchèse, et sur cet onglet figure non seulement le plan de l'année, mais également à chaque fois l'enregistrement audio et le texte écrit de la séance. Voilà. Donc pour celle la première séance est déjà en ligne, et pour celle de ce soir, eh bien, ce sera le cas dans les 10 jours à venir. Voilà. Alors, je commence par la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, d'ailleurs même pour ceux qui étaient là, que la chaleur de cet été indien avait un peu endormi. J'avais donc évoqué les notions respectives de fin dernière et de salut. Je voudrais approfondir ce soir la notion de salut telle qu'elle figure dans l'Écriture sainte. Mais en réalité, au gré de la préparation de cette séance, je me suis rendu compte que je devrais consacrer une séance entière à la notion de salut dans l'Ancien Testament, parce que c'est une pierre d'attente puissante, importante, pour la plénitude de la révélation dans le Nouveau Testament. Donc cette fois-ci, nous allons voir la notion de salut dans l'Ancien Testament, et la prochaine fois, son approfondissement, son épanouissement, sa claire révélation dans le Nouveau, avec notamment cette considération à l'égard de ce qui nécessite le salut, mais ce sera pour la prochaine fois, le péché originel. Alors, je résume en quelques mots ce que j'ai dit la dernière fois au sujet du salut, tel qu'il nous est présenté, alors à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'avais donné quelques bribes à cet égard, trois petits rappels. Le premier enseignement qu'on y trouve, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est que le salut consiste tout simplement en un accomplissement plénier. Saint Thomas d'Aquin le dit de manière lapidaire dans son commentaire du Notre Père, « Quand un être atteint ce pour quoi il est fait, on dit qu'il est sauvé. » Merci Saint Thomas. On comprend qu'il était élevé au rang de docteur de l'Église, effectivement. Alors, donc pour l'être humain, atteindre le salut, c'est-à-dire accéder à ce pour quoi il est fait, lui procure le bonheur. Certains d'entre vous ont peut-être étudié l'éthique à Nicomaque d'Aristote, dans lequel Aristote commence par définir ce qu'est le bonheur, expliquant que tout être humain est fait pour le bonheur. Il s'interroge sur ce que les hommes appellent communément le bonheur, avec ses différentes formes de bonheur, des plus triviaux, des plus grégaires, jusqu'à la forme ultime de bonheur, la contemplation de la vérité et l'amitié dans le cadre de la cité. Alors, je ne vais pas revenir sur Aristote, mais voilà, on sait grâce à lui que, enfin, il a en tout cas très bien exprimé que le fait d'atteindre ce pourquoi nous sommes faits, nous autres créatures humaines, nous procure le bonheur. Pas seulement le plaisir, comme c'est le cas pour les animaux quand ils arrivent à leur fin, quand ils accomplissent leur désir, cela leur procure du plaisir. Nous autres, êtres humains, sommes voués à quelque chose de plus élevé, de plus noble, qui est le bonheur, avec la claire conscience que nous avons accompli notre vocation, notre destinée. Voilà. Donc, en gros, le salut, qui est l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes faits, qu'on appelle bonheur communément en philosophie, évidemment, dans le cadre de la religion chrétienne, on l'appelle béatitude. On parlera ça plus tard. Donc, première chose, le salut consiste en un accomplissement plénier. C'était clairement vu par l'Ancien Testament, ça l'est davantage encore par le Nouveau. Deuxième enseignement, commun aux deux, il n'est pas à la portée de l'être humain d'accéder lui-même à sa propre plénitude, d'accéder lui-même à son propre salut. C'est Dieu qui a l'initiative absolument gratuite du salut. Et c'est lui qui va donner à l'être humain de quoi accéder au salut. Et comme ce salut est d'ordre surnaturel, eh bien, Dieu va donner sa grâce à l'être humain. De cela, nous reparlerons abondamment. Alors, que le salut soit d'initiative divine, évidemment, nous le savons, nous autres qui essayons de militer, comme on dit, puisque nous sommes membres de l'Église militante ou pérégrinante, ne signifie absolument pas que nous devrions rester passifs. Bien entendu, il faut que nous coopérions à notre propre salut. Voilà. Mais notre place n'est que seconde. Et puis, hélas, puisqu'il nous faut coopérer à notre propre salut, il peut arriver que nous nous en détournions. Voilà, c'est le drame du péché, et ça peut être le drame ultime du pécheur qui meurt dans cet état-là. Là encore, j'en reparlerai. Troisième enseignement, l'obtention du salut nous est toujours présentée par l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, comme devant passer par une délivrance. Nous avons besoin d'un goël, comme on disait en hébreu dans l'Ancien Testament, nous avons besoin d'un libérateur, nous avons besoin d'un sauveur. Voilà. Si donc il faut une délivrance préalablement à l'obtention du salut, c'est que l'être humain est né captif. Captif de quelque chose, captif de quelqu'un. Nous reverrons cela au gré des développements sur la notion de salut dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament. Voilà. Alors, j'attaque donc cette considération sur la façon dont le salut est présenté dans l'Ancien Testament. J'y ai fait brièvement allusion la dernière fois. Il serait faux, il serait erroné de considérer d'un bloc la pensée judaïque, la pensée israélite. Il s'en est fallu avant qu'une pensée un peu claire apparaisse dans l'esprit et sous la plume des écrivains sacrés et du peuple élu pris dans son ensemble. C'est par étapes, par une décantation progressive, que les choses vont, que le peuple élu va advenir à la lumière, pas la lumière pleine et entière, il faudra pour ça Jésus-Christ, mais tout de même davantage de lumière qu'au début, une vision moins grossière. Alors pour traiter de ce sujet, je me suis inspiré largement d'un petit opuscule qui fait à peine une centaine de pages. Alors on me dira, oui mais alors méfiez-vous, à chaque fois qu'il recommande des bouquins c'est trapu, peut-être, mais je pense qu'à le lire et le relire, on tire beaucoup de profit. Il s'agit d'un ouvrage qui est maintenant un peu ancien, du père Albert Gelin, qui était un prêtre de la compagnie de Saint-Sulpice, père Albert Gelin, et qui a synthétisé une étude, c'était un spécialiste, un exégète de haut vol, spécialiste de l'Ancien Testament, et il a écrit ce petit opuscule qui porte ce nom, « Les idées maîtresses de l'Ancien Testament », aux éditions du Cerf, en 1947. Voilà. Et alors, le père Gelin... Pardon, le père Gelin identifie deux caractéristiques de la compréhension du salut en Israël, dans le judaïsme primitif. Deux caractéristiques. La première, c'est que ce salut concerne la communauté prise dans son ensemble. Les spécialistes parlent d'une perception, d'une conception holistique du salut. Il n'y a pas, dans un premier temps, de salut individuel, il n'est de salut que communautaire ou national. C'est très important. Et ça aura des implications, bien qu'il y ait de notoires évolutions, dans le salut tel que présenté dans le Nouveau Testament. Donc ça concerne d'abord, dans le judaïsme primitif, le salut concerne toujours la communauté prise dans son ensemble, et d'autre part, le salut est limité dans un premier temps à la seule sphère temporelle, c'est-à-dire à l'existence terrestre. Voilà, je pense que ce sont des choses que vous savez plus ou moins, peut-être plus que moins, si vous êtes penché sur la question. Voilà, c'est un peu des tartes à la crème pour ceux qui connaissent l'exégèse de l'Ancien Testament. Mais voilà, donc ça, le salut dans un premier temps, le judaïsme primitif, mais qui dure. Il ne faudrait pas croire que le judaïsme primitif, ce sont les deux premiers siècles. Non, c'est plusieurs siècles, de longs siècles en réalité. Mais on n'arrive pas exactement à discerner à quel moment les choses évoluent véritablement. C'est bien une sorte de tuilage. Et puis, il y a la coexistence de textes écrits pourtant au même moment dans l'Ancien Testament qui ont des logiques un peu de judaïsme primitif et de judaïsme plus élaboré, ce qui rend très difficile la datation. Voilà. Enfin, peu importe, ce n'est pas l'enjeu de mon propos. Nous, on reste dans le monde des idées, vous voyez, de la théorie. On laisse aux historiens. Bref, voilà. Alors, enfin, ils nous sont quand même très utiles. Et Bergelin donne quelques jalons quand même tout à fait pertinents. Et alors, après avoir posé ces deux caractéristiques du salut tel que perçu dans le judaïsme primitif, le Bergelin, et c'est ce qui rend son analyse très intéressante, eh bien, va voir la façon, expliquer la façon dont cette perception du salut a progressivement évolué sur ces deux points. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est passé d'une compréhension du salut comme commun à toute la nation juive à un salut plus personnel, et comment est-ce qu'on est passé d'un salut qui se réaliserait uniquement sur Terre, dans la sphère temporelle, à un salut beaucoup plus spirituel, qui adviendrait dès cette Terre, mais qui serait là, qui se consommerait dans l'au-delà. Ça va jusqu'à maintenant ou c'est... Oui. Alors, nous ne sommes que mardi, mais bon. Alors, je vais regarder chacune de ces deux caractéristiques, donc de ces deux données du judaïsme primitif quant au salut. D'un salut communautaire, donc, à un salut plus personnel. Donc, pendant longtemps, le salut, je le redis, je ne fais que répéter les choses, pendant longtemps, le salut, vraiment, on a du mal, de toute façon, à cette époque-là, à considérer les individus. Mais c'est le cas pour les Juifs, c'est le cas pour toutes les tribus environnantes, toutes les sociétés contemporaines, on a du mal à considérer autre chose que la communauté, que la cité, que voilà, la tribu, le clan, etc. Ce phénomène, certains exégètes l'ont qualifié de solidarisme ancien. Et il tient à plusieurs facteurs. Le fait qu'on se soit focalisé sur la nation et qu'on ait eu du mal à s'intéresser à chacune des personnes qui composaient ce peuple, cette nation. D'abord, il y a un facteur sociologique. Israël, ça tout le monde le sait, en son commencement, était une simple tribu de nomades. C'est Abraham, ça ne s'appelait d'ailleurs pas encore Israël. Il faudra sans doute attendre Moïse pour que véritablement Israël soit conçu comme une nation avec sa loi, avec ses préceptes sociaux, voilà, toute la loi en fait, qui est donnée par Dieu et tous les préceptes sur le mont Sinaï au moment de l'Exode. Mais dès Abraham, eh bien, Dieu commence à s'adresser à un peuple en particulier, peuple qui, je vous l'ai dit, se réduit à une toute petite tribu. Et les péripéties de son histoire, telles que l'Exode sous Moïse, l'exil, 6e siècle, 5e siècle, amèneront le peuple élu à garder une vive conscience de ses origines nomades, puisqu'en réalité, il lui faudra toujours être un peuple pèlerin. D'ailleurs, il semble que ce ne soit pas fini, puisque, en dépit de la restauration de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale, l'immense majorité de la diaspora juive considère qu'elle est un peuple pèlerin, et jusqu'à la fin des temps. Et, vous connaissez ce titre est tout à fait évocateur du juif errant. Voilà. Alors, dans un peuple nomade, on a un sentiment très vif de solidarité organique, la solidarité de la communauté qui est extrêmement prégnante. On peut le comprendre très aisément, puisque d'une part, la taille du groupe nomade est toujours réduite, tout de même. On n'est pas dans des immenses métropoles comme celle de Saint-Cloud. Voilà. Vous voyez, on n'est pas dans des mégalopoles, c'est pas du tout le style du... Il faut voyager léger, il faut voyager à peu de personnes, donc nécessairement la taille de la communauté étant réduite, c'est une sorte de grande cousinade dans laquelle les liens de sang sont très étroits, liens du sang qui rendent évidente l'interdépendance entre les membres et favorisent le sentiment de former un bloc. Il y a moyennement de crise d'identité au sein des peuplades nomades. Et d'autre part, le caractère nomade qui fait que la tribu, le clan, va évoluer au contact de nombreux autres peuples, avec des cultures, avec des identités différentes, ce fait-là va encore renforcer le sentiment d'appartenance Et on va volontairement entretenir ce sentiment d'identité, de cohésion, pour ne pas dissoudre son identité propre, l'identité culturelle, du clan, au sein des peuplades, au contact des peuplades alentour. Ça va ? Il y a peu de personnes, donc, et souvent ce sont les liens du sang qui président, du coup, sentiment de bloc, et puis sentiment de bloc qui est encore renforcé, qui pour le coup est délibéré, parce qu'on ne veut pas dissoudre, on ne veut pas perdre son identité au sein des pérégrinations. Mais à ce facteur sociologique s'ajoute un facteur religieux qui va incliner Israël à se faire du salut une idée collectiviste, une idée holiste. Il y a un certain nombre de facteurs en réalité, d'ordre religieux. Ce sont certaines données de la révélation originelle que Dieu lui-même a adressées aux Hébreux. Par exemple, les promesses faites à Abraham. Quelles sont-elles ces promesses? Vous les connaissez, bon an, mal an. Moyennant l'obéissance d'Abraham, Dieu promet de donner une terre et de donner une descendance, de susciter à Abraham une descendance. Or, ce sont là deux identités collectives, s'il en est. Donc, de la part de Dieu même, il semble que la sagesse divine ait voulu constituer une identité très forte sur une terre particulière qu'il a préparée pour cela, avec une descendance par le sang. D'autre part, Dieu a organisé progressivement, et l'acmé en est sans doute, je le redis, le moment du don de la loi sur le mont Sinaï à Moïse pendant l'Exode, il a organisé la vie du peuple élu par manière de ségrégation. C'est très étonnant. C'est Dieu lui-même qui, et ça semble attenter à l'unité du genre humain. Donc on se rassure, Dieu avait son plan quand même. Il entendait faire de cette nation-là un prophète du vrai Dieu à la face de toutes les autres nations. Il y a d'ailleurs, soit dit par parenthèse, et contrairement à ce qu'on raconte parfois, même dans les paroles que Dieu adresse à Abraham, il y a déjà une visée universelle. Il lui parle déjà de sa mission de préposer du vrai Dieu auprès des multitudes. Et il dit que tôt ou tard, les multitudes entreront dans cette descendance qui lui est promise, de manière évidemment spirituelle. Mais bon, donc Dieu a organisé la vie du peuple par manière de ségrégation. L'enjeu était probablement de permettre aux Juifs, en exigeant d'eux un mode de vie spécifique, différent de tous les autres modes de vie des peuplades environnantes, de n'être pas contaminés par les croyances, par les pratiques inconvenantes de ces peuplades. En un mot, de les préserver du paganisme. Plutôt de les arracher dans un premier temps, parce qu'ils en viennent. Mais qu'ils ne retournent pas au paganisme. Et pour cela, Dieu prévoyait des barrières, en somme, demandant à son peuple d'observer au plan social, au plan culturel, au plan cultuel, des règles, des pratiques bien spécifiques, différentes des autres. La ségrégation du peuple élu, qui est un sentiment, encore pour ceux d'entre vous qui connaissez, qui ont des amis juifs ou des proches juifs, vous voyez de quoi je parle. Ils ont un sentiment extrêmement fort, même s'ils ne sont pas pratiquants, c'est très étonnant, de leur identité et du fait qu'ils ne sont pas comme les autres. Il suffit d'écouter messieurs Elkabach, Bernard-Henri Lévy, de grands juifs pratiquants devant l'Éternel, pour être convaincus de ça. C'est très frappant. Et pour une part, c'est beau. Enfin, c'est-à-dire, c'est assez incroyable que ça ait traversé non seulement les siècles, mais les millénaires. C'est quand même une... Alors qu'on a affaire à des gens qui ne sont plus pratiquants depuis plusieurs générations. Je ne sais pas s'il se passe la même chose pour nos chers baptisés, ou ceux même qui n'ont pas reçu le baptême, mais qui sont de culture chrétienne. Autre facteur religieux, donc autre donnée biblique, la plus vieille représentation biblique qu'on ait de la justice divine, est éminemment collective. L'acte coupable d'un individu engage tout son groupe, et notamment sa descendance, pour le meilleur et pour le pire. Quand on voit la façon dont Dieu fait justice dans l'Ancien Testament, je sais que c'est un point d'achoppement, et c'est très compliqué d'essayer d'en faire une exégèse qui passe, qui puisse être audible. Je cite Exode 20. « Moi, Yahvé, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Fin de citation. Bon. Et de fait, les exemples abondent de cette forme de justice collective primaire, quoi, on pourrait dire. Parce que Pharaon refuse le départ des Hébreux, 10 plaies d'Égypte, rien de moins, s'abattent sur l'intégralité de son peuple. Même ceux qui n'ont rien demandé. Et qui peut-être même étaient plutôt sympathisants des Hébreux. Non, non, tant pis pour eux. Voilà, ils sont du peuple de celui qui a péché, qu'ils crèvent. C'est quand même très dur. D'autre part, parce que David a enfreint l'interdiction, vous savez, ancestrale, de dénombrer, de recenser son peuple, il outrepasse cette interdiction et il s'en va le faire, eh bien, c'est le peuple tout entier qui est châtié par une terrible famine. On trouve ça au deuxième livre de Samuel. Voilà. Bon, enfin, je pourrais encore citer moult exemples, on n'est pas là pour se déprimer. Et du reste, l'enseignement des prophètes eux-mêmes entretient cette perspective collective du salut, le fait que c'est un salut qui est proposé au peuple pris comme un tout indivis. Jelin nous le dit, donc celui dont je m'inspire pour ce topo, Père Jelin, les prophètes considèrent la nation comme l'unité religieuse. Qu'ils parlent de péché, de châtiment ou de salut, le sujet ou le bénéficiaire en est Israël, considéré comme un tout organique. Souvent d'ailleurs personnifié, dit-il, sous forme d'épouse de Yahvé. Voilà encore ce qui renforce l'identité d'un bloc d'Israël et la conviction chez lui que le salut est offert au peuple pris dans son ensemble. On trouve cette analogie avec l'épouse chez, vous le savez bien, chez Osée, chez Jérémie, chez Ézéchiel. Voilà. Alors, cette vision des choses holistique, un salut fait pour la nation prise en bloc, avec peu de considération pour les personnes, va évoluer du fait de plusieurs facteurs. Vous me suivez jusqu'à maintenant ou... ouais. Voilà. D'abord, premier facteur qui va faire évoluer, qui va mettre en crise un peu cette vision primitive des choses, c'est évidemment une évolution du mode de vie. Puisque je vous ai dit que le premier facteur qui rendait Israël comme un tout et qui insistait sur l'unité, sur l'interdépendance intranationale, c'était le mode de vie d'un peuple de nomades, d'une petite tribu de nomades. Lorsque Israël se sédentarise, lorsque la vie citadine se généralise en Israël, eh bien, et que, d'autre part, le commerce international devient une des activités d'Israël, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Au début, c'était des éleveurs de troupeaux, tout simplement. Alors, ils faisaient du troc pour les besoins élémentaires du groupe, mais ils n'allaient pas plus loin. Et voilà qu'ils se lancent, et on sait que la postérité est très douée pour cette même activité, dans le commerce international. Voilà. Eh bien, forcément, tout cela, le mode de vie citadin, le commerce mené par tel ou tel, avec des contrats personnels, tout cela donne une perspective de plus en plus individualiste à l'existence. Voilà. Enfin émerge, disons, la personne au sein du peuple. Je ne vaux plus seulement parce que je suis issu de la descendance d'Abraham, parce que je suis le peuple, etc. Mais je vaux également par ce que je fais personnellement. Et d'ailleurs, le milieu dans lequel je vis, la ville, est propice à cela. Avec le caractère un peu anonyme ou brassé de ce qu'implique la vie citadine. Heureusement, à Saint-Cloud, nous sommes dans une petite cité. Donc, pas d'anonymat, pas de... voilà. Alors, on est plutôt tribal, nous, chez nous. Ça fait que 3 ans que je suis là, mais... Bon. On se rassure, il y a quand même les 12 tribus à Saint-Cloud. Hein. Je commence un peu à discerner que... Enfin... Alors, mais c'est très intégrateur, donc il y a aussi d'autres tribus plus tardives, etc. Bon, bref, la 13e tribu, tout ça. Alors... Autre facteur qui va incliner vers une conception davantage personnelle du salut, c'est l'exil à Babylone. je pense qu'on a du mal à percevoir l'impact psychologique et social de ce que fut la déportation à Babylone. On a un retour de Babylone, par la mansuétude du roi perse, c'est Israël année zéro. C'est récurrent dans leur histoire. La nation juive en tant que telle n'existe plus. Enfin, bien sûr qu'elle existe, puisqu'il y a des juifs qui sont là, ils sont partis de leur terre sainte que une ou deux générations plus tôt. Mais on a perdu cette évidence de la continuité. Le temple avait été rasé, les tribus sacerdotales désœuvrées, sinon torturées, abattues. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, quand on revient, et puis les textes sacrés dilapidés, et puis quand on revient en Israël, il faut recréer une nation. Voilà. Or, cette reconstitution de la nation juive va se faire de manière beaucoup plus ouverte qu'avant l'exil. On aurait pu croire qu'ils allaient se lancer bien en tête dans une espèce de resserrement de caste ou de... Eh bien non. Bizarrement, ils se sont ouverts à pas mal de choses. D'abord, le peuple en lui-même, ceux qui sont de la nation juive, fils d'eux, etc., se sont accoquinés, si je puis dire, avec leurs bourreaux, pour une part, ou avec les personnes qui résidaient sur les terres où ils étaient déportés. Ben oui, forcément. On ne va pas fréquenter impunément... une jeune fille très sympathique, on a beau être juif, etc. Et papa et maman ont beau ne pas être contents du tout de notre choix, bah oui, enfin, bon voilà, les choses se font ainsi. C'était d'ailleurs un des buts de l'empereur perse, de mélanger les deux. Bon, alors ça ne va pas tout à fait marcher, mais quand même déjà, pendant l'exil même, on a eu une sorte de mixage. D'autre part, au sein du peuple élu, donc on a une coexistence entre des castes, des sectes, on dit. Alors, n'y mettez pas du tout la connotation négative. C'est ainsi que Flavius Joseph, l'un des plus grands historiens juifs, mais du début de notre ère, qualifiera les différentes écoles de pensée internes au peuple élu. Voilà. On a progressivement les Sadducéens, les Pharisiens, enfin ceux qu'on retrouvera dans l'Évangile, qui se mettent en place avec leur doctrine propre, avec leur pratique singulière, voilà, avec leurs disputes dont l'Évangile se fait l'écho, c'est des disputes qui ont déjà plusieurs siècles auparavant. Vous voyez, donc l'homogénéité du peuple élu est moindre. Il y a eu des apports extérieurs, et puis, suprême apport, on tolère désormais ce que l'on appelle les prosélytes. Prosélytes, qui est terme grec, qui est significatif de la période des deux derniers siècles d'avant le Christ, où il y a une hellénisation d'Israël, vous savez, de force pour le coup. Du coup, on utilise le grec comme langage courant. Vous connaissez sans doute, là, au moins la version des Septante, qui est la version en grec de la Bible dont se servait la quasi-totalité des synagogues à l'époque du Seigneur Jésus. Le Christ cite l'Écriture, il cite les Septante. Étonnant, hein ? Voilà. Alors, traduit en grec, mais bon. En hébreu. Donc on a les prosélytes. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Là encore, enfin, c'est un terme qui est un peu galvaudé, donc aujourd'hui on a l'impression que le prosélyte, c'est celui qui va aller faire claquer les bannières de sa religion, etc. Alors, à l'époque, non. Les prosélytes, c'est un peu l'inverse. Ce sont des personnes qui sont non-juifs, mais qui s'intéressent à la Torah, qui s'intéressent à la foi d'Israël, qui vont jusqu'à demander la circoncision pour certains d'entre eux, et qui vont jusqu'à aller en pèlerinage à Jérusalem, pratiquer au moins une partie des préceptes rituels, etc. Et ils sont admis dans la communauté d'Israël, ce qui, semble-t-il, n'était pas le cas avant l'exil. On était fils d'Abraham, ou rien du tout. Et là, on a une agrégation de personnes qui commencent par le parvis, et puis qui finissent par entrer et par intégrer la nation d'Israël. Vous voyez, donc cette évolution des choses à favoriser l'émergence d'une conception plus souple de l'appartenance à la nation sainte d'Israël. Ça va ? Bon. C'est moins affirmatif. Voilà. Donc je l'ai dit, qu'est-ce qui a favorisé, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce qu'il y a, les éléments qui ont favorisé la conception d'un salut davantage personnel que holistique, que de la nation prise comme un tout, une évolution des modes de vie, on devient citadin, on fait du commerce international, etc., mais une destinée personnelle. D'autre part, l'exil à Babylone et ses conséquences pour l'homogénéité du peuple juif. Et puis, il y a également des facteurs religieux. D'abord, le témoignage des prophètes eux-mêmes. Les prophètes, ce sont des mystiques. Et ils conçoivent la vie spirituelle comme étant d'abord une question de communion spirituelle avec leur Dieu. Ce qui ne semble pas avoir été le cas de la majorité des Juifs. La plupart des Juifs, semble-t-il, étaient observants. De toute façon, s'ils n'étaient pas observants, en gare, maman était là. Ils étaient observants avec un esprit très prégnant, encore une fois, de caste, de famille, etc. Songez à ce qui se passait chez nous il y a encore quelques décennies. Voilà, ça ne se faisait pas. Et on encourait la réprobation de la communauté chrétienne, paroissiale ou autre, si on faisait comme ci et pas comme ça. Je ne dis pas que c'est un mal, je dis que c'est un fait. Pour Israël, c'est la même chose. La plupart d'entre eux, comment concevaient-ils leur rapport à Dieu ? Eh bien, médiatisé par la liturgie, par l'étude, on apprenait à lire dans la Torah, bon, très bien. Mais est-ce que ça allait vraiment beaucoup plus loin ? Pas sûr. En tout cas, c'était très social. Mais il n'appartient pas de sonder les reins et les cœurs des juifs de ce temps-là, ni non plus, je n'aime qu'on parle des catholiques il y a quelques décennies en me disant « le catholicisme social », enfin pas au sens, vous avez compris, hein, de la fin du XIXe, Albert Demain, la Tour du Pain, tout, mais le catholicisme sociologique, pardon, on dit plutôt, pas le catholicisme social, c'est encore autre chose, le catholicisme sociologique, ouais bah, c'est déjà ça, bon. Et donc, et puis qui sommes-nous pour aller songer, pour aller sonder les reins et les cœurs, pour parler de la qualité du fond de leur âme, ça on serait bien téméraire. Bon bref, alors donc je ferme la parenthèse. Et en tout cas, les prophètes, eux, ce sont des mystiques enflammés. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils écrivent pour s'en persuader. Ils font état de quoi ? Ben, de leur expérience intime de relation avec Dieu. Il s'y montre familier envers lui, avec toutes les tonalités de ce que la familiarité permet. Alors, il se rappelle de qui est Dieu et de qui ils sont, mais quand même, ça va très loin. À travers des prières d'action de grâce, à travers des prières parfois de plainte, de reproche, enfin, il y a des discussions avec Dieu qui sont quand même tout à fait saisissantes et parfois très touchantes, très amusantes même, entre les prophètes et Dieu. Ils négocient avec Dieu. Quand même, faut oser, quoi. Bon. Vous voyez, toute chose qui vont, à mesure que les écrits prophétiques vont se répandre, eh bien, qui vont forcément déteindre sur tout Israël. C'est-à-dire qu'ils vont servir de modèle, de plus en plus, au commun des fidèles juifs. D'une conception sociologique ou sociale, uniquement liturgique, de leur relation à Dieu, ils en viennent à quelque chose de plus intime. Parce qu'ils ont accès à une littérature prophétique qui fait état des bienfaits d'une relation étroite, personnelle, cordiale avec Dieu. Évidemment, ça va favoriser l'éclosion d'une conception plus personnelle du salut par rapport à la conception antécédente très holistique, je vous redis. Et puis, toujours sous l'influence des prophètes, la théologie juive progresse. Elle n'est pas du tout un monolithe de A à Z, elle progresse. Au gré de leur méditation, ils se disent que la conception d'une justice divine holistique, vous savez, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, celui qui a péché, bah, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières-arrières vont en bâtir. Les prophètes qui fréquentent Dieu assidûment se disent « Mais ça ressemble peu aux mœurs de celui que j'ai l'habitude d'honorer et de fréquenter. Ça ne convient pas. » C'est trop tributaire. Alors, c'est probablement pas de cette manière très distante et académique qui voit les choses, mais en tout cas, ils en ont le sentiment. Ils se rendent compte que ça ne permet pas de rendre compte de qui est Dieu et de la façon dont il gouverne le monde. Dieu n'est pas, il punit pas en bloc comme un mauvais professeur, comme quelqu'un qui fait crétin, tac, bah, c'est tout le monde qui est puni. Alors pardon pour les enseignants d'entre vous qui, un jour où elle aurait chauffé, aurait puni toute la classe, bon, ça arrive. Enfin, si c'est la politique quotidienne, je doute qu'on reste longtemps en poste. Bon.
Parce qu'il y a des syndicats, monsieur.
Bon, voilà. Oui, donc le principe des sanctions collectives, ça ne passe plus. L'expérience, donc, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Donc progressivement, sous la poussée des prophètes qui comprennent les choses avec 3 ou 4 temps d'avance sur le reste du peuple, eh bien, c'est chaque personne qui commence d'être considérée comme devant rendre compte à Dieu pour ses propres mérites ou ses propres démérites. C'est ce qu'on lit au livre d'Ézéchiel, par exemple, chapitre 18. « Je vous jugerai chacun selon vos voies, enfants d'Israël. » En gros, ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que parce que le peuple va globalement bien, qu'il m'honore, et que vous êtes partie de ce peuple-là, enfin partie prenante, tout ira bien pour vous. Vous voyez, espèce de force d'inertie, le paquebot, là. C'est bon, je suis embarqué sur le paquebot, quoi que je fasse, Dieu va me sauver. Je vais lui montrer mes papiers, fils d'Abraham, j'ai été à Pâques, à Pessah, tout va bien. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ni non plus à l'inverse, voilà, on répond chacun de ses mérites et démérites. Cependant, le père Gelin, donc pour clore cette première partie sur l'évolution de la conception du salut comme étant d'abord communautaire jusqu'à une évolution personnelle, un salut qui est offert à chacun et qui est accepté ou refusé par chacun, fût-ce par les membres du peuple de la nation juive, le père Gelin quand même conclut la partie qu'il consacre à cela en disant « Jérémie et les autres prophètes n'abandonnent pas le cadre traditionnel. C'est toujours avec la nation juive que Dieu conclura son alliance, la nation apparaissant comme le lien naturel et obligé du salut. » Vous voyez, il y a une ébullition, il y a plus que des velléités, il y a un progrès, mais toute la charte du salut, enfin de la première théologie, quoi, est telle qu'Israël n'arrive pas à s'en affranchir. Et donc il conclut ainsi, « Ne nous y trompons pas, le judaïsme reste une communauté religieuse ethnique à laquelle il faut s'agréger par la circoncision. » C'est à la fois la faiblesse et la force d'Israël. On retrouvera quelque chose d'analogue au sein de l'Église, avec la dimension éminemment personnelle du salut, mais aussi la médiation de la communauté. Je l'avais dit la dernière fois, j'avais dénoncé cette expression « faire son salut ». On comprend ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose de un peu mesquin, un peu étriqué. Non, je ne fais pas mon salut tout seul. Hein, que d'homme entre Dieu et moi, disait l'autre grand philosophe des Lumières. Que d'homme entre... Bah oui, il est heureux qu'on ait des médiateurs, si vous voulez. Et puis, plus la foule de médiateurs est importante, plus ça me va, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas, c'est comme un escalier. Plus il y a de marches, mieux on arrive à accéder à l'étage, si vous voulez. Tandis que si je voyais d'emblée Dieu et moi, je veux que Dieu et moi... pour paraphraser, je ne veux que Dieu et moi. Bon, ce serait un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, on a besoin du cadre, non pas national, mais du cadre de cette nouvelle communauté qu'est l'Église. Et ça, j'y reviendrai. Ça va ? Pour cette évolution, donc, d'une conception, je l'aurais dit, au risque d'être très lourd, holistique, d'un salut un peu indifférencié destiné à un peuple, à un salut davantage personnel, qui soit fonction de mon écoute de Dieu et ma participation. Alors, la deuxième caractéristique que j'ai évoquée en commençant, c'est un salut qui, d'emblée, est conçu comme seulement temporel. Et on en vient à une conception plus fine du salut, qui est un salut d'ordre d'abord spirituel, et même un salut post-mortem, qui s'inaugure sur terre, mais qui se consomme dans l'au-delà. Vous voyez, là encore, les choses ne sont pas du tout monolithiques. C'est assez, frappant lorsqu'on regarde différents textes, qu'on pose à côté différents textes de différentes périodes de l'Ancien Testament. Alors, pour comprendre que les Juifs ne se sont d'abord intéressés qu'à un salut temporel, parce qu'on aurait vite fait de dire « Oh là, mais qu'est-ce qu'ils sont mesquins, qu'est-ce qu'ils sont bas de plafond ?» Alors le salut, c'est uniquement la postérité, enfin la descendance, les biens, en écus sonnant et trébuchant, je sais si je suis sauvé ou pas, mais vraiment, alors je vous jure. Bon. Ouais, bon, enfin il y a une cause à cela. Si Israël pensait comme ça, bon c'est d'abord que globalement, à l'époque, tout le monde pensait comme ça. Enfin bon, l'argument « tout le monde fait comme ça » n'est pas le bon, mais oui, vous m'avez compris. Et surtout, il faut dire quelques mots de la conception qu'ils se firent pendant très longtemps de l'au-delà. Conception qui a tout pour les faire s'en détourner pour regarder l'aujourd'hui et maintenant, quoi, l'existence terrestre. Alors le père Jelin rend compte de cette conception-là, de l'au-delà, que vous connaissez peu ou prou. Voilà, et il le dit avec des mots tellement faciles que, ne voulant pas le trahir, je me contente de le citer. C'est tout à fait éloquent. Alors, voilà comment il commence. Les Hébreux admettaient comme une conception courante, à la manière des autres sémites, une survivance de la personne humaine. Mais une survivance atténuée et amoindrie. À la mort, j'avoue que je ne connaissais pas le terme, mais on devenait un réphaïm, un des réphaïm. Vous connaissiez ce terme, non ? Oui, non. Les réphaïm. Alors, je vous souhaite de ne jamais devenir des réphaïm. Je nous souhaite. Voilà. Parce que la racine hébraïque du terme signifie un être flasque. Donc, vous mourrez, vous vous retrouvez un être flasque. Ouais, c'est même pas un fantôme, je ne sais quoi. Ce sera encore. Les fantômes, c'est un peu de gueule. Enfin, non, ou les vampires, ou un truc un peu actif, quoi. Et redoutable. Non, vous êtes pire que ça, vous êtes un être flasque. Vous. Bande de Réphaïm. Voilà, ça vous pouvez le dire si vous êtes enseignant dans votre classe. Bon. Sauf si vous êtes dans une école talmudique. Bon, là, je... Et donc, on devenait un des Réphaïm et l'on descendait au, vous connaissez le terme, Sheol. Exactement. C'est bien. Merci de suivre parce que ça me rassure. Alors, et dans ce Sheol-là, comment est-ce que le père Jelin nous explique les choses? Bah, il ne fait que ramasser les différentes occurrences bibliques qui décrivent le Sheol. Un peuple d'ombre habite ce lieu souterrain. Donc il n'y a pas seulement les êtres flasques, les réphaïms, mais il y a aussi des ombres. Voilà. Que la Bible nous décrit par allusions nombreuses et assez vagues, je le cite. Lieu de ténèbres, on voit ça dans les psaumes notamment, ou au livre de Job. Vous savez, Job qui est à la fois effrayé et fasciné par le Sheol, parce qu'en fait, il aimerait bien en finir. Son existence est tellement terrible, il faut dire que tous les fléaux lui tombent dessus, rien ne lui est épargné. Finalement, hein, il maudit le jour où sa mère l'a porté, l'a enfanté. Voilà. Enfin, il est toujours à la limite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va être vanté par Dieu à la fin, qu'il va être rétribué. Parce qu'il ne blasphème pas. Mais bon, on peut le comprendre, le pauvre. Je pense qu'à sa place, bon... Donc, lieu de ténèbres et aussi de silence, parce que les ténèbres ne suffisent pas. Il y a encore un silence, quoi. Dans sa profondeur, parce qu'il y a encore y a un fond, eh bien, on distingue des abîmes encore plus profonds. Voilà, ça, c'est au livre du Deutéronome, chez Isaïe, dans les psaumes, voilà. On le personnifie, nous dit le père Jelin, ce Sheol, on le personnifie comme un monstre hideux et insatiable. Bah oui, vu le taux de mortalité de l'époque, surtout quand à la mortalité infantile très élevée, on ajoute les morts violentes au combat et compagnie, quand on regarde la quantité de gus qui tombent dans les rangs d'Israël ou ailleurs, on se dit qu'effectivement, il pouvait bien se représenter le Sheol comme un monstre hideux qui bouffait tout ce qui passait, quoi. Voilà, insatiable. Isaïe, livre des Proverbes. C'est la terre sans retour. Alors en plus, non seulement c'est horrible, mais en plus, c'est inextricable. Et là, il cite le livre de Job, « Une nuée se dissipe et s'en va, ainsi, qui descend au Sheol ne remonte pas. Il ne revient pas à la maison, et l'endroit où il était ne le revoit plus. » Il fait bon être né quelques siècles après Jésus-Christ, quand même. et dans le contexte chrétien. Voilà. Cette prison, parce que c'est pas fini, cette prison a ses portes qui en gardent jalousement l'entrée. On trouve ça dans les psaumes ou chez Job. On a peur d'y aller, mais pas à comprendre, car la vie qu'on y mène est morne et léthargique. Et Coëlette couronne le tout en disant « Il n'y a là plus d'action, ni de pensée, ni de science, ni de sagesse dans le shéol où tu iras. » Ah, donc on a vraiment... aucune manière, enfin c'est l'horreur. Il n'y a pas de communication, il fait mauvais, enfin je ne sais pas quel promoteur immobilier, mais ça ne va pas du tout. Et puis on n'a même pas la consolation de la science, de la sagesse, de quoi que ce soit, vraiment rien. Bon, il réfaillit, c'est clair. Voilà. Et l'auteur insiste sur deux caractéristiques de cet au-delà, qui a été donc envisagé pendant de longs siècles par les Israélites. Et j'allais dire qu'il va les hanter jusque presque à l'époque du Christ, quand même. Il faut se figurer les choses. Quel effroi, quand même. D'abord, première caractéristique, Dieu semble ne pas s'y trouver. Ou tout au moins, il n'est pas possible d'entrer en contact avec lui, et a fortiori, de l'y louer. Et ça, c'est un drame pour les Juifs, et notamment pour les Juifs pieux. On trouve ça au psaume, dans le psaume 6, je crois. Ton souvenir n'existe pas dans la mort. Mais quelqu'un qui aura passé sa vie à aimer Dieu, à essayer de le servir, se retrouve mort. Ton souvenir n'existe pas dans la mort. Qui t'adressera une louange dans le shéol ? Vous voyez, on comprend mieux certaines phrases des psaumes qui sont parfois obscures. On se demande, mais c'est emphatique, c'est des manières de parler. Ben non, pas du tout. C'est dicté par la conception qu'on se fait de ce redoutable shéol, quoi. Les paroles du psalmiste sont conçues davantage comme un cri, quoi. C'est quelque chose de viscéral. Il ne veut pas y aller. Qui t'adressera une louange dans le shéol ? Mais à quoi bon ? Donc ça, c'est la première caractéristique. Dieu semble ne pas s'y trouver. Tout au moins, on ne peut pas entrer en contact avec lui. Et deuxième caractéristique, la survie au shéol n'est pas différente pour les justes et pour les injustes. Même tarif pour tout le monde. T'es mort, shéol. D'accord. Étonnant quand même. Voilà. Mais en fait, c'est tellement outrancier que, heureusement, ça va par soi-même engendrer une crise. Quoi. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc devant. Alors, du coup, je vous disais qu'il fallait prendre en considération cet arrière-fond, cette conception de l'au-delà, du shéol, pour mieux comprendre pourquoi les Juifs se rabattaient sur les biens temporels et considéraient que le salut était quelque chose d'acquérir là, pendant la vie terrestre. Ben, on le comprend. Franchement, c'est répulsif. Donc, ils ont été obnubilés par d'autres choses que ce shéol. Mais même jusqu'à s'en... Enfin, pour plusieurs motifs, pour s'en distraire déjà, pour arrêter d'y penser, et puis... pour essayer de construire des choses de manière un peu désespérée, quoi, des fois que. Voilà. Alors, quels sont ces biens temporels sur lesquels ils vont s'obnubiler, dont ils vont faire les composantes du salut ? Le premier, c'est, enfin, on comprend, c'est directement corrélé avec la conception du shéol. Le premier bien temporel, le premier salut que Dieu peut offrir, c'est l'allongement au maximum de la durée de vie. Ah bah oui. Ouais. Le plus loin ce sera, le mieux je me porterai, quoi. Voilà, je sais que c'est inévitable, mais au moins, si Dieu pouvait faire en sorte que, et vous connaissez l'expression, que je puisse mourir vieux et rassasié de jours, ça vient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ben on le comprend. Ça a été conçu comme vraiment un gage de bénédiction de la part de Dieu. Si Dieu permet que je vive longtemps, c'est parce qu'il m'aime au point de faire reculer le moment où je vais devoir aller dans le shéol. Bon, je vous présente les choses de manière peut-être un peu schématique, donc on a l'impression qu'ils sont un peu benêts. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus... C'est très subtil et c'est très... Et surtout, c'est ancré depuis des générations et des générations dans la psychologie collective, quoi, dans les convictions collectives. Donc, on comprend dans ces conditions que le premier ennemi dont Dieu, le Goël, puisse nous sauver, c'est celui qui risque de mettre en péril ma vie. Cet acharnement, vous voyez les choses, j'espère en tout cas, sont davantage en lumière, prennent du relief. Pourquoi est-ce qu'Israël passe son temps à guerroyer contre les peuplades alentour? Ils n'ont pas véritablement d'intention expansionniste. Ce n'est pas dans la matrice d'Israël. Ils vont dans la terre que Dieu indiquera. Cette terre, elle est relativement petite, pour le meilleur et pour le pire. C'est le signe. Il y a des Réphaïm qui... Il y a des êtres flasques qui essayent. Mais ils ont raison d'eux. Voilà. Et là, si vous allez dire, je ne sais pas. voilà, donc, comprenez, ils passent leur temps à guerroyer, d'une part, pour promouvoir la religion d'Israël, le culte du vrai Dieu, et ne pas se laisser contaminer par l'erreur... Vivement l'homme augmenté, j'avais déjà dit, mais je vais avoir un micro greffé à vie dans... Bon. Ben, au cas où, oui. Là, pour l'instant, ça fonctionne. Merci. Donc oui, ces guerres ont pour finalité de sauvegarder l'espace de la Terre Sainte, qui est quand même un bien divin, dont ils sont les intendants, de sauvegarder la pureté de la religion du vrai Dieu, éviter les contacts malodorants avec les erreurs païennes, mais aussi et surtout pour éviter de se faire zigouiller, parce que qui dit zigouille dit Sheol, Réphaïm. Donc voilà. Et par surcroît, autre bien temporel que guignent les Hébreux, et dans lesquels ils voient des bénédictions de la part de Dieu, c'est une certaine opulence matérielle, et surtout une descendance nombreuse. Là, c'est comme au stand, mais je ne suis pas assez rapide. Voilà, donc, qu'est-ce que je dis ? Oui, voilà. Pourquoi est-ce que, pour eux, une opulence matérielle, des biens, des terres, une entreprise qui fonctionne, et surtout une descendance nombreuse, est conçue comme une forme de salut ? Eh bien, parce qu'elles sont le gage que le souvenir de la personne va perdurer par-delà la mort. À défaut de pouvoir survivre, d'avoir une véritable existence, puisqu'on est condamné au Sheol, au moins va-t-on avoir ce substitut de pérennité dans la mémoire collective et singulièrement dans la mémoire familiale, des enfants, des petits-enfants, etc., qui mettront un point d'honneur à entretenir la mémoire du défunt. Vous voyez ? On voit le bien fondé de certaines conduites ou de certaines convictions d'Israël qui parfois nous paraissent... Trop élémentaire, trop brut, trop... Non. Voilà. Mais par contre-coup, ceux qui ne jouissent pas d'une vie longue, ceux qui n'ont pas de succès économique, agricole, je ne sais quoi, ceux qui sont frappés par la fécondité, eh bien, apparaissent comme frappés de malédiction. Dieu ne les bénit pas. Parce que s'il les bénissait, il leur permettrait... cette espèce de pis-aller au Sheol, qu'est une vie un peu plus longue et qu'est une descendance qui entretiendra la mémoire. Donc c'est le signe que Dieu n'accorde pas le salut. Et ça, on sait très bien que ce sera extrêmement prégnant, j'allais dire jusqu'à aujourd'hui, mais pour nombre de Juifs, pour avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux, quand j'habitais dans le sentier, je me suis rendu compte que c'était encore quelque chose de très vif dans leur... manière de concevoir les choses. Et puis, cette conviction-là était encore renforcée par les fameuses promesses de Dieu à Abraham, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais que vous connaissez depuis fort longtemps. Voilà, Dieu avait promis une vie longue, il avait promis une postérité nombreuse, il avait promis une terre à celui qui observerait, enfin, si Abraham observait ses volontés, s'il lui adressait le culte qui convenait. Donc, par conséquent, on en déduit que celui qui n'a pas de descendance, qui souffre, qui machin, c'est quelqu'un qui, soit publiquement, soit en secret, n'observe pas les termes de l'alliance. Donc Dieu se désengage et il le laisse à son propre sort, pour ne pas dire qu'il le maudit. Dur, hein. Alors, heureusement, ce modèle-là, d'un salut conçu comme étant uniquement temporel, entre en crise, et on en vient à quelque chose, une perception beaucoup plus fine. Le premier facteur de cette crise-là, c'est d'abord l'évolution de la conception de l'au-delà, de la vie post-mortem, du shéol et tout ça. Donc ce shéol que j'ai détaillé plus haut, non sans complaisance, donc le lieu sans vie réelle, le lieu où Dieu n'est pas, a été battu en brèche par l'idée toujours plus précise, plus fine qu'on se faisait de qui est Dieu. Je cite le cardinal Ratzinger dans l'au-delà, la mort et l'au-delà, pardon. Donc vous avez les références dans le dernier topo, mais je voulais vous remettre dans celui-ci, la version écrite. Voilà ce qu'il dit. Il dit l'idée propre au Sheol, que la mort marque la limite ou finit le domaine de Yahvé, parce que c'est ça dont il s'agit. Dieu n'est pas au Sheol. Il y a donc une limite au domaine de Yahvé. C'est en contradiction, nous dit Ratzinger, avec l'exigence globale de la foi en Yahvé. Il y a en effet contradiction dans l'idée que la puissance de celui qui est la vie, je suis celui qui suis, se heurte à des limites. C'est pas bête. En acceptant la thèse du Sheol, où il n'y a plus de vie, où c'est une espèce de vie sans vie, où Dieu n'est pas, lui qui est la vie, c'est comme si on restreignait la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Voilà, on se trouvait là dans une situation qui ne pouvait être définitive. C'est vrai que c'est insatisfaisant. Plus on sait qui est Dieu, plus on se dit « mais c'est pas possible ». À la fin, une seule chose était possible, une alternative, quoi. Ou bien la foi en Yahvé disparaissait, ou bien au bénéfice du Sheol, ou bien l'immensité de sa puissance devait l'emporter. Et c'est fort heureusement ce qui se passa. Donc on a remis en cause cette conception du Sheol, on en vint à concevoir que la vie perdurait véritablement dans l'au-delà. Au moins pour les amis de Dieu. C'était pas très clair pour les autres, du moins dans un premier temps. Voilà. Et ça, c'est ce que le psalmiste, entre autres, dit très bien, au psaume 16e, il dit « Ma chair reposera en sûreté. » Donc après ma mort, « Ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol. » Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. C'est beau quand même, ces paroles inspirées par l'Esprit Saint lui-même, qui explique à sa créature que, voilà, il ne faut pas qu'il s'inquiète, en fait. Dieu est suffisamment puissant pour veiller sur son ami après la fosse. Enfin, ou plutôt, lui, son corps étant dans la fosse. Commentaire de Ratzinger, même si une foi précise dans la victoire sur la mort n'est peut-être pas explicité ici, dans le psaume. Les choses ne sont pas expliquées à la manière d'un traité de théologie ou d'un cours de catéchisme, d'accord. Et il dit, il n'en est pas moins vrai qu'en toute clarté, s'y fait jour la certitude que Yahvé est plus fort que le Sheol. Laurent, celui qui prie donc, se sait à l'abri dans les mains de Dieu, qui sont la force inébranlable de la vie. C'est une phrase décisive que celle-ci. Laurent se sait, celui qui prie, l'ami de Dieu, se sait à l'abri dans les mains de Dieu, qui sont la force inébranlable de la vie. Ça va conduire à une spiritualisation du salut. Je m'explique. Plus les hommes sont persuadés que, s'en remettant à Dieu, étant dans la main de Dieu, essayant de faire sa volonté, ils sont appuyés sur un roc de vie inébranlable, qui leur permettra de continuer à vivre dans le Sheol, enfin, on l'a vidé de son sens, mais ça va être toujours le Sheol, plus on a affaire à une conception du salut spiritualisée. En gros, on a, si vous voulez, une évolution dans la frontière entre la mort et la vie. La frontière brute de décoffrage du judaïsme primitif, c'est la frontière que tout un chacun peut constater, mais dont il s'avérera qu'elle est apparente. C'est la mort physique. Vie, mort, on, off. Voilà. Tout ça étant fonction de l'état du corps, en fait. Séparation, hop. À cette frontière-là, donc naturelle, de la vie physique et de la mort physique, s'en substitue une autre qui est autrement plus fine. C'est une opposition entre une frontière entre la vraie vie qui consiste dans la communion de Dieu, qu'on soit en vie au sens strict, qu'on soit encore sur cette terre ou qu'on n'y soit plus. On est dans la vie quand on est dans la communion de Dieu. Et par contre, il y a la vraie mort, là encore, qu'on soit effectivement au tombeau ou qu'on soit encore sur cette terre, vraie mort qui est la rupture de communion avec Dieu. Pas si vous saisissez la nuance qui est quand même de taille. Voilà. Désormais, la frontière vie-mort, c'est plus la frontière naturelle, mort physique, par rapport à la vie. Non. On peut être des morts vivants, si je puis dire, et on peut être des vivants morts. En tout cas, c'est la communion à Dieu qui va déterminer si je suis en vie ou pas. Et ça fait entrer en ligne de mire un facteur, enfin un élément qui peut-être dont il vous a paru curieux que je ne l'évoque pas jusqu'à maintenant, qui est le péché. Et maintenant, on avait l'impression de choses un peu automatiques, tac-tac, réglo. Mais là, le vrai salut qu'apporte Dieu, la vraie libération qu'il va apporter, c'est plus de sauver la mort physique, encore que, entre nous, ce ne soit pas un mal, mais à sauver de la mort spirituelle consécutive au péché. Et alors là, va phosphorer la recherche des Israélites au sujet du péché. Mais les véritables clés seront données, même si le récit du péché originel se situe au début de la Bible, en réalité il a été réinvesti au fil des siècles de l'Ancienne Alliance, et il ne trouvera sa pleine lumière, évidemment, qu'avec la révélation pleine et entière dans le Christ. Mais ça, j'y reviendrai la prochaine fois. Il y a encore une dernière chose que je voulais évoquer ce soir. Donc, je vous l'ai dit, il y a le modèle du salut uniquement réservé aux choses temporelles, acquis par des bénédictions temporelles, la crise de cette conception-là, et l'évolution vers quelque chose de plus spirituel, tient à l'évolution de la conception qu'on a de l'au-delà, du Sheol, où Dieu est, ne peut pas ne pas être, il est prince de la vie, bon sang, il est souverain, tout puissant, il n'y a pas de limite. Et deuxième facteur qui va infléchir les choses, je viens de le dire, je ne fais que répéter, le salut se spiritualise, la frontière mort-vie n'est plus celle qu'on retenait jusqu'alors, le critère déterminant c'est la fidélité à Dieu, la communion à Dieu ou le péché. Voilà. Et puis, troisième facteur, qui va achever de renverser ou de mettre à bas la conception d'un salut réservé au bien temporel, c'est que la mort physique, mais déjà la maladie, l'infertilité, ne sont plus compris comme des malédictions divines. Encore une fois, ça va perdurer dans l'esprit de beaucoup de juifs, mais dans la religion officielle, over. C'est plus le cas. Alors, il faudra beaucoup de temps pour que les juifs s'en persuadent, tellement c'était ancré dans leur conviction. Vous vous rappelez très bien de tous ces passages évangéliques où Jésus essuie la contradiction. Est-ce que ceux qui sont morts écrasés par la tour de Siloué avaient péché, quoi, eux ou leurs parents? L'aveugle-né qui essuie les foudres des pharisiens, pour la simple et bonne raison qu'il était guéri, le pauvre. Bon, c'est un peu léger quand même. Mais non, mais parce que lui ou ses parents avaient péché. Bref, donc à l'époque du Christ, c'est loin d'être terminé, cette conviction-là. Mais on a donc, cela dit, petit à petit, dans la fin de l'histoire du peuple juif avant la venue du Christ, cette idée que la mort ou la souffrance ne sont pas forcément liées au péché. Cette idée-là fait son chemin au gré de toutes les tribulations que traverse Israël. Je crois y avoir fait allusion déjà au moment où Israël est déporté à Babylone. Eh bien, les Juifs se disent, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Bon, c'est pas si il parlait comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? La situation de notre foi, notre degré d'implication, de pratique, n'était pas pire qu'à d'autres époques. Or, c'est à cette époque-là que nous avons été déportés. Et même les Juifs pieux, parmi les plus fidèles d'entre nous, ont été lâchement assassinés. Comment cela se fait-il ? Donc, la corrélation qui jusqu'alors était tenue entre les malheurs temporels et la malédiction ne tenait plus. Et puis, le clou est enfoncé avec le livre de Job, qui est écrit précisément à la période de la déportation, de l'exil à Babylone, ou au retour. Le livre de Job, je ne vous en souhaite pas, je n'en retrace pas tout le parcours, parce qu'il est très long, mais vous le connaissez tout comme moi, on voit très bien que ce n'est pas Dieu qui va faire tomber ses fléaux directement sur Job, qui est un serviteur fidèle entre tous, c'est Dieu qui permet la fameuse notion de permission divine, qui est mystérieuse, on est d'accord. Une fois qu'on a dit permission divine, ça paraît un peu le joker des théologiens ou des pasteurs, mais bon, c'est un peu léger. Il ne faut pas cesser de méditer sur ce sujet en réalité. Mais enfin, en tout cas, le coin est enfoncé clairement avec le livre de Job. Job est un type bon et même très bon, Dieu le reconnaît, et il n'y a pas sur la terre de serviteur qui lui soit semblable, dit-il fièrement devant l'ennemi. L'ennemi dit, prive-le donc de telle ou telle chose, tu vois. Comment ça se passait ? Eh ben, que nenni, notre bon Job tient jusqu'au bout du livre. Et la théologie de ces trois copains qui viennent pendant une semaine pleurer sur son sort et qui ensuite lui font s'abattre sur lui une pluie de reproches, mais en fait, t'es un gros pécheur, sinon t'es pas... Ne tient, ça ne marche pas. Alors, ça l'affecte profondément, mais ça n'ébranlera pas sa foi et sa confiance en Dieu. Ça, évidemment, ça signe une évolution très profonde. On peut souffrir sur cette terre et être parfaitement juste. Être béni de Dieu. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec... Il est un livre qui va encore plus loin, celui de la sagesse, dont la critique pense que la dernière facture date seulement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors là, dans le livre de la sagesse, c'est très audacieux ce qu'on découvre. C'est là encore quelque chose que peut-être vous connaissez. Voilà, il parle du juste. C'est au chapitre 4e du livre de la sagesse. Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouve le repos. La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours. Elle ne se mesure pas au nombre des années. C'est cheveux blancs pour les hommes que l'intelligence. C'est un âge avancé qu'une vie sans tache. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé. Et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été transféré. Enfin, c'est un peu vite dit, quoi. Si c'est pas Dieu qui avait inspiré l'auteur, je dirais, mais qui est-ce que c'est que ça ? Il a été enlevé de peur que la malice n'altère son jugement ou que la fourberie ne séduise son âme. Car la fascination du mal obscurcit le bien et le tourbillon de la convoitise gâte un esprit sans malice. Devenu parfait en peu de temps, il a fourni une longue carrière. On sait souvent ce qu'on prend comme texte, peut-être avez-vous été vous-même concerné par ce genre de situation dramatique où on perd un être cher en bas âge, un enfant, voilà. Alors c'est un texte qui est certes très consolant, alors ça n'enlève rien au deuil, mais où on voit, vous voyez, l'auteur va très loin quand même, la mort en bas âge ne préjuge pas du tout. Peut-être, si je ne pouvais pas m'autoriser du texte que je viens de vous lire, je ne le dirais pas, autant être clair. La mort en bas âge, d'après ce que dit l'écrivain sacré, donc ce que dit la sagesse divine, peut être un avantage. Bon, je m'arrête là parce que je ne veux pas blesser, ni... Encore une fois, je ne fais que répéter ce qui est dans ce texte, qui est. Ouais, mes voix ne sont pas vos voix, on sait très bien que la sagesse divine est tellement mystérieuse que parfois, il vaut mieux se taire à son propos. Quoi. Enfin, je me devais de vous le dire quand même. C'est parce qu'on voit là l'infléchissement qui... dans un sens qui n'a plus rien à voir avec la mort, ogni par-dessus tout, avec une crainte absolue devant ce sort du Sheol où la vie n'existe plus, où Dieu même n'est plus, on ne peut plus le louer. Enfin. Et puis, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on a ce récit qui a été fait du reste dans la messe de dimanche dernier, en forme ordinaire du moins, ce récit du martyr des frères Maccabées, qui est même très frappant, où clairement, la mort, alors là, pour le coup, est une mort glorieuse. C'est-à-dire plus seulement, on ne se satisfait plus de dire qu'elle n'a rien à voir avec une malédiction, on ne se satisfait plus seulement de dire qu'elle pourrait avoir un certain avantage, elle est, pour la personne elle-même, elle est la mort du martyr, donc du témoin. Ces sept frères qui tiennent contre toute épreuve, ils meurent l'un après l'autre, encouragés par leur mère, qui plus est, qui préfère, comme dirait notre bonne sainte Clotilde à l'égard de son petit Clodoald, vous savez tous maintenant cette phrase-là, « Je préfère le voir mort que tombé », eh bien on a l'impression qu'elle avait une ancêtre, la mère des Maccabées, qui disait « Je préfère les voir morts qu'apostats ». Donc il s'agissait simplement de manger un petit peu de cochon. Entre nous, bon. Voilà. Mais oui, c'est un précepte. C'est du ciel, ce que dit dans la lecture qui a été faite dimanche dernier, l'un des frères, l'un des plus jeunes. C'est du ciel. Ouais, j'ai message reçu. C'est vrai que c'est un peu long. Donc il dit, c'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, les lois de Dieu, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Et comme si les choses n'étaient pas assez claires, voilà ce qu'il ajoute, mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Enfin, on y est. Donc, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, voilà, évidemment, l'authenticité de ce texte-là pose problème aux Juifs, bien entendu, à nombre d'entre eux en tout cas. Ils narrent pourtant la victoire, le combat, victoire ou pas, enfin la victoire spirituelle du moins, de cette famille incroyable, issue d'un grand prêtre, pour l'honneur d'Israël, contre l'hellénisation forcée et tout. Comme il est question de résurrection, il y a toute une partie qui n'est pas tout à fait d'accord. Et ça pose problème. Ce texte-là pose problème aussi. En tout cas, il n'est pas reconnu dans le canon des Écritures, dans la liste officielle des écrits qui passent pour inspirés par l'Esprit Saint chez la plupart des obédiences protestantes. Voilà. C'est dommage parce que c'est comme ça. Et puis, je termine promis là-dessus, parce que sinon mon micro va me chéoliser. Il y a en réalité un livre beaucoup plus ancien que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu des bribes, ou plus que des bribes, c'est le livre d'Isaïe, qui est beaucoup plus ancien et qui évoque déjà, alors sans parler de la résurrection aussi explicitement que le livre des Maccabées. Non, c'est un être flasque. Encore s'il me mordait, mais non. Voilà. Donc dans le livre d'Isaïe, on voit le bienfait que la mort consentie pour Dieu peut apporter. Et je termine donc en citant le cardinal Ratzinger à cet égard. Non seulement c'est la mort physique consentie. Non seulement la mort physique consentie pour le maintien de la foi comme martyr est une belle mort, mais dans le livre d'Isaïe, où il est fait allusion au fameux serviteur souffrant, on voit ce qu'est capable d'apporter la mort. La mort apporte la vie. Très paradoxalement, voilà. La mort, dit Karl Ratzinger, donc, celui qui meurt, la mort de celui qui adhère à Dieu, par ses souffrances, ouvre. Oh. La mort de celui qui adhère à Dieu, par ses souffrances, ouvre aux autres la porte de la vie et devient leur sauveur. La souffrance par amour de Dieu et pour les autres peut devenir, peut. Hein. Mais quand il s'agit du serviteur souffrant, et quand on sait qui c'est, on comprend très bien ce que ça veut dire, le moyen suprême de rendre Dieu présent et de se mettre au service de la vie. Et qu'on a totalement changé de matrice.